Voilà. Comme je l'avais annoncé un petit peu, j'avais envie de parler ce matin sur le réveil spirituel. Ah. J'ai toujours aimé lire, hein, étudier, réfléchir sur ce thème. Et cette recherche de tout ce qui touche au réveil a certainement contribué à ce qu'Annette et moi on démarre cette église à Wavrin. Quand on aspire au réveil, on aspire à voir le royaume de Dieu et ça nous rend propice à répondre à l'appel de Dieu, évidemment. Hein. Mais j'avais perdu ces toutes dernières années un certain élan dans ma quête du réveil. Dû à la fatigue, certainement. Bon, gloire à Dieu, hein, il a eu compassion de moi, d'Annette, de notre équipe à Wavrin, hein, qui aussi aspire, je l'espère, au réveil. Et donc, il nous a envoyé Robert et Sylviane, hein, un couple passionné qui prie et travaille pour le réveil. Vous savez, souvent, vous avez entendu Robert parler de sa quête du réveil. Mais ça, c'est formidable, quand même, hein. C'est super. Comment ne pas reconnaître, oui? Il nous a envoyé les vagues aussi, oui. Ces vagues de Coréens, Coréennes, oui. Oui, tout à fait. Merci, Colette, bien sûr. Alors, comment ne pas reconnaître que Dieu nous a visités pour nous remettre en marche vers le réveil? Est-ce que nous comprenons ça? Pour que nous tous, nous nous remettions en marche, nous nous mettions en marche vers le réveil, dans cette attente du réveil, hein. Il y a un an et demi, vous vous souvenez, quand Robert et Sylviane avaient dit qu'ils étaient prêts à venir au milieu de nous, moi j'avais dit, c'est comme si Dieu rachetait mes rêves. Mais c'était mes rêves de quoi? Mes rêves de réveil. C'est comme s'il dit, Dieu, je rachète tes rêves, voilà. Et voilà que ça fait plusieurs mois que je me remets à prier, à me documenter, à lire sur ce sujet, à écouter des messages. Et on a commencé avec Annette, et je vous le recommande, vraiment. Hein, vous allez sur Top Chrétien, Top TV. Et puis dans la recherche, à un moment où vous y marquez rechercher, ben vous tapez soit le mot réveil, ou soit le mot du pasteur qui donne ses enseignements. Il s'appelle Pierre de Maude, D-E-M-A-U-D-E. Alors vous tapez Pierre de Maude, vous allez tomber sur 6 plus 4 ou 5, 11, je crois, 10 ou 11 enseignements. 6 sur le réveil en général et 4 ou 5 sur le réveil dans les Cévennes, qui a eu lieu en France, fin du 17e, début 18e. Ouais. Et c'est vraiment, Jacques et Christine ont commencé à écouter un tout petit peu aussi, c'est très très clair comme enseignement, c'est très stimulant, très très stimulant, vraiment. Et alors donc, deuxième diapo, voilà, c'est de l'un de ces enseignements que j'aimerais tirer une tentative, je dis bien une tentative de définition du réveil. Pour cela, le pasteur fait référence donc à une citation d'Arthur Wallis, qui est un enseignant itinérant de la Bible et auteur de plusieurs ouvrages chrétiens. Voici ce qu'il dit à propos du réveil, voilà, on va le lire ensemble. C'est une intervention divine dans le cours normal des choses spirituelles. C'est Dieu qui se révèle lui-même à l'homme dans une puissance impressionnante et irrésistible. C'est si manifestement une œuvre de Dieu que les personnalités humaines passent au second plan, les programmes humains sont abandonnés, c'est l'homme qui se retire à l'arrière-plan car Dieu a pris la première place, c'est le Seigneur qui travaille au travers d'une puissance extraordinaire sur les chrétiens et sur ceux qui ne le sont pas encore. Alors, petit arrêt sur cette définition, une tentative de définition, aucune n'est parfaite, vous allez le voir après. Toutes les personnes qui ont vécu un réveil soulignent souvent ces caractéristiques. C'est vrai, on assiste, par exemple, des endroits où il y a le réveil, à ce que le culte dure des heures, on en oublie le repas, le poulet rôti, on en oublie, tellement la présence de Dieu est là, est forte, que les gens oublient le repas et que voilà, ça continue jusqu'à une heure, deux heures. Ouais, ça c'est une caractéristique souvent. Hein. Les gens veulent plus partir tant la présence de Dieu est forte. Elle produit aussi, on voit souvent cette, alors il peut y avoir des manifestations, mais surtout ce qui est commun à situation de Raphaël, c'est qu'il y a une forte conviction de péché, de, qui amène des gens, des pécheurs, déjà croyants ou pas encore, à crier à Dieu leurs besoins insatiables de Dieu, quoi, hein, de son pardon, de son salut, ouais. Alors Pierre de Mode, ce pasteur, qui donne cette définition un peu plus loin dans un autre enseignement, il souligne que, à propos de cette définition, qu'il l'aime bien, mais qu'elle a une faiblesse. Parce que d'après cette définition, le réveil, c'est Dieu. Bon, et on peut être conduit à cette conclusion, donc, que si le réveil ne se produit pas, c'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable, ce n'est pas le temps de Dieu. Et alors, il s'empresse de parler d'autres citations d'autres hommes de Dieu qui parlent du réveil pour bien comprendre. Et il fait référence à Charles Finet. Donc, diapo suivante, oui. Charles Finet, voilà. Qui est l'auteur d'un puissant réveil aux États-Unis au 19e siècle. Et dans ses fameux discours, j'ai le livre ici, sur les réveils religieux. Ces discours ont été regroupés dans ce livre, un livre que je vous recommande aussi. Hein. Il dit à peu près ceci. Il n'y a rien de miraculeux dans un réveil. Il suffit que l'Église fasse et soit ce que Dieu lui demande et le réveil éclatera. Boum. Étonnant, hein. Ouais. Une autre vision... de la définition, hein. Et une autre phrase aussi qu'il a dite, le réveil est le résultat, un peu une phrase un peu en vieux français, bon, c'est, je vais l'expliquer après, il est le résultat d'un emploi convenable des moyens appropriés. Il explique, il dit, si je sème des pommes de terre, je vais récolter des pommes de terre. Bien sûr, c'est Dieu qui donne la bénédiction au semail, mais nous chrétiens, comme tous les païens, on ne considère pas qu'il s'agisse là d'un miracle. Je sème des pommes de terre, donc je vais récolter des pommes de terre. Ainsi, l'approche de Finet nous amène à considérer que le réveil, c'est aussi l'homme. Que l'Église agisse comme le Saint-Esprit le lui demande, et elle verra la moisson. Et je crois qu'il nous faut ces deux approches. Il nous faut ces deux approches. Si c'est dire c'est tout l'homme, c'est pas bon. Dire c'est tout Dieu, c'est pas bon non plus. Il faut la collaboration, hein, d'accord? La vie de l'Église est une vie de collaboration avec Dieu. Alors il y a deux versets que je vais citer de la parole. On a cité des écrivains, des hommes de réveil, mais deux versets, le diapo suivante, voilà. Ne jamais parler de réveil sans se dire qu'il faut d'abord que moi, je me réveille. D'accord? Éphésiens 5,14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bon. Donc il faut entendre cet appel à se réveiller nous-mêmes, hein, bien entendu. Que je sois moi-même un homme et une femme réveillés. Et une deuxième parole qui rejoint quand même pleinement là ce que Finet semble dire. Ne nous lassons pas de faire le bien, entre guillemets, de faire ce que Dieu nous demande, de faire ce que le Saint-Esprit nous demande, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Là, l'image de la récolte, je sème, je peux m'attendre à récolter. D'accord? Je sème, je peux m'attendre à récolter. Quelqu'un dit ceci, notre pauvreté spirituelle peut être le fruit de ce que nous n'avons pas semé. Donc il nous faut semer, semer, semer l'amour, semer. Alors donc il ne faut pas nous dérober à l'action de semer, d'arroser, sachant que bien sûr c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui fait croître. Hein. Alors voilà, on vient de tenter d'essayer de définir le réveil en prenant deux définitions un peu opposées, se dire voilà, hein, la vérité est là entre les deux. Hein. D'accord? Alors, une deuxième question après la première, qu'est-ce que le réveil ? Une question capitale, est-ce que nous désirons le réveil ? Ouais. C'est capital, cette question. Ouais. Est-ce que nous désirons le réveil ? Ouais, bah absolument. Ouais. Et ce message n'a pas d'autre but que de nous faire désirer ardemment le réveil. Quoi de plus stupide de prier pour le réveil si on ne s'y attend pas non plus hein. Donc désirer, c'est aussi l'attendre. Finet avait remarqué dans les réunions de prière qu'il y avait des gens qui priaient des heures, mais se rendent compte que les gens ne s'attendaient pas au réveil. Ils ne s'y attendaient pas. Alors c'est important que dans l'Église, tous ensemble, on le désire. Parce que s'il y a un moment, si peut-être une poignée le désire, mais que Dieu commence à donner des signes et que certains ne le désirent pas, ne l'attendent pas, ne sont pas préparés, vont devenir des opposants en réveil. Ça peut poser des problèmes. Ouais. Donc c'est important d'être toute l'Église à désirer ardemment le réveil. C'est le but principal hein, de ce message, qu'on le désire. Alors, diapo suivante. Deux raisons, toutes simples, et le simple bon sens. Par le bon sens, on peut trouver ces deux raisons essentielles pour désirer ardemment le réveil. La première, ouais, le réveil nous prépare pour le retour de Jésus, tout simplement. Voilà, si je veux... Plus je désire le réveil, moins je risque de m'éloigner d'un rendez-vous manqué. D'accord ? Moins je risque de m'éloigner d'un rendez-vous manqué. Plus je désire le réveil et je me mets en marche vers le réveil, je me prépare à la rencontre de Jésus. Donc, est-ce qu'on comprend ce que Dieu est en train de faire en ce moment ? Qu'est-ce qu'il fait Dieu en ce moment ? Il se prépare une épouse glorieuse. Sans tache ni ride. D'accord ? Donc je suis sûr qu'il nous pousse à désirer le réveil. Il nous y pousse. Je suis sûr que c'est lui qui m'a poussé à prendre ce sujet. C'est lui qui nous y pousse parce qu'il veut nous. Il sait que le réveil va nous préparer à la rencontre. Alors vous avez, donc ce sujet est assez proche du dernier sujet que j'ai traité sur progresser dans la passion avec Jésus. Hein. Une deuxième raison, toute simple, pleine de bon sens aussi. Même si je ne suis pas complètement réveillé, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai écrit là, on a une influence, hein, bien entendu. Mais reconnaissons qu'il est impossible d'impacter de façon tangible, palpable, vraiment, notre ville, notre région sans le réveil. De façon vraiment visible et de façon un peu plus rapide, de façon à ce que beaucoup soient touchés. C'est ce qu'on désire, pas seulement un par-ci, par-là, mais beaucoup. Et est-ce que ça impacte les grandes décisions de nos autorités jusque dans les structures Finet a dit un peu la même chose, il a dit « Il est impossible que la foi fasse des progrès parmi les païens sans réveil religieux. » On rêve d'impacter notre ville, notre région, que plusieurs soient convaincus de péché, qu'ils crient à Dieu, qu'ils aient leur vie transformée. On rêve qu'il y ait un frein à la dépravation autour de nous, hein, avec toutes ses conséquences, les addictions, les divisions, les destructions, les meurtres. Cela est impossible sans le réveil, oui. Voilà. Alors, comment me mettre en marche vers le réveil ? Alors là, je vais essayer de répondre modestement, hein, bien entendu. C'est pas la panacée, tout ce que je vais dire. Mais ces derniers temps, je prie, je dis « Seigneur, montre-moi comment. » Alors je vais vous dire comment le Seigneur me montre de me mettre en marche vers le réveil. Et vous posez la même question au Seigneur. Il y a des choses qu'il vous redira qui sont peut-être les mêmes, mais il y a d'autres choses peut-être très particulières vous concernant et qui ne sont pas dans ce que je vais dire maintenant. Mais je pense qu'il y a il y a, je pense, de bons conseils pour nous aider, hein, à avancer. Eh bien, une première façon de se mettre en marche. Vas-y, ouais. Suivant. En rêvant, on réveille. Ben oui, c'est tout simplement. En rêvant, en continuant de rêver au réveil, c'est important. C'est-à-dire, et comment je vais rêver au réveil? Ben, je vais m'intéresser, j'ai rajouté, sans impatience, sans orgueil. Ouais, ça je rajoute parce que il n'y a rien de plus terrible des gens qui veulent le réveil, mais qui te prennent toi pour un moins que rien, toi t'es pas prêt, il faut se dépêcher, enfin je sais pas. Voilà, l'impatience, l'orgueil, il n'y a rien de plus pour repousser, au contraire. Hein. Donc sans impatience, sans orgueil, je rêve de réveil, je m'intéresse au réveil passé, au réveil actuel. Je m'intéresse, c'est stimulant, je suis stimulé, c'est tout bête. Hein. Hein, donc je rêve du réveil sans me déresponsabiliser de la place où le Seigneur me demande d'être, de la mission qu'il me demande dans ma communauté. Vous êtes hein, d'accord? Rêver, c'est pas... Hein, c'est s'intéresser au réveil passé, chercher, lire, entendre des enseignements comme Pierre de Maude sur Top TV... Et puis, voilà, m'intéresser, et c'est très stimulant. Très, très stimulant. Alors, je vais vous... Ouais, deux récits de réveil, très courts, bien entendu, très, très, très courts, mais qui stimulent. Parfois, il suffit de peu de mots dans un temps de réveil, quand une personne est bien réveillée. Parfois, elle a besoin de rien dire, quelquefois, pour que le Saint-Esprit vienne... Alors là, c'est étonnant, là. C'est ce Finet qui nous raconte ça. Donc, ouais, tu peux passer le... Ouais, le voilà, là, voilà, Finet, une photo de Charles Finet. Il dit ceci, une fois. Il raconte que quelqu'un vint un jour visiter une fabrique pour en voir les machines. Sa physionomie révélait des dispositions sérieuses car il avait pris part à un réveil. Les ouvriers le connaissaient tous de vue et savaient qui il était. L'une des ouvrières le vit, chuchota une plaisanterie à sa camarade et se mit à rire. Le visiteur s'arrêta, la regarda avec tristesse. À son tour, elle s'arrêta. Son fil se rompit. Elle était si agitée qu'elle ne put pas le renouer. Et pour se calmer, elle regarda par la fenêtre, puis essaya de nouveau de se remettre au travail. À plusieurs reprises, elle lutta pour se ressaisir. À la fin, elle s'assit accablée. Alors le visiteur s'approcha d'elle et lui parla. Elle manifesta bientôt une profonde conviction de péché. Un sentiment semblable se répandit comme du feu à travers toute la fabrique. En peu d'heures, presque tous les ouvriers se trouvèrent sous une conviction de péché tellement que le propriétaire, quoique mondain, fut stupéfait, demandant qu'on arrêtât le travail et qu'on tînt une réunion de prière. En peu de jours, le propriétaire et presque tous les employés de l'établissement présentèrent les symptômes d'une vraie repentance. Le regard de cet homme, sa physionomie, ses sentiments de compassion furent un reproche pour la légèreté de cette jeune fille et l'amenèrent à la conviction de péché. Tout le réveil qui en résulta eut pour point de départ, dans une grande mesure, ce petit incident. Incroyable. C'est incroyable. Alors, ça s'est passé, mais actuel maintenant. Vous voyez de qui il s'agit? Voilà, c'est marqué. Heidi Baker, ouais. Missionnaire au Mozambique. Alors, vous pouvez lire des livres d'Heidi Baker au Mozambique, c'est peut-être le réveil le plus fabuleux qu'il y a lieu en ce moment. Ouais. C'est des milliers d'enfants, elle s'occupe de milliers d'enfants, des guérisons tous les jours. Le surnaturel est dans le naturel, c'est vraiment des milliers d'églises. Des villages transformés. Incroyable. C'est curieux parce qu'avec Annette, on est allé l'écouter en Belgique. Puis on s'est avancé un moment pour demander la prière. Puis je lui ai dit, j'espère que ce ne sera pas un flamand quand même qui va prier pour nous. Parce qu'il y avait beaucoup de flamands en fait. Hein. Et puis, c'était un Français. On était tout contents. C'est un Français qui a prié pour nous. Un Belge, oui, un Belge francophone. Voilà, ouais. Bon. Puis on revient à la maison, puis on s'était décidé à réécouter Pierre de Maude, le quatrième enseignement, je crois, hein, puisqu'on avait écouté trois, puis dit, ben, C'est lui qui a prié pour nous. C'était lui qui avait prié pour nous. On l'a reconnu après, le pasteur Pierre de Mode. On s'est dit, ça c'est un clin d'œil, comme si Dieu nous disait, allez, continuez à écouter ces enseignements. Continuez, c'est important. C'est incroyable quand même. Voilà. Alors Heidi Baker, je vais vous lire dans son livre ici, Apprendre à aimer, tout simple. Voilà, ce qu'elle a, un tout petit récit. Page 146. Regardez ces visages d'enfants comme ils sont beaux, hein. Mais c'est des villages qui viennent, des enfants qui viennent de villages ténébreux, où vraiment les enfants traînaient. Enfin, comment dire, c'est incroyable quand on voit ces visages épanouis. Ça fait du bien de voir ça, hein. Ça encourage. Page 146 et 147. Voilà ce qu'elle dit, tout simplement. Cela fait 9 ans que nous avons débarqué dans cette province du nord de Cabo Delgado et nous avons lancé la base de Pemba, une petite ville côtière d'environ 50 000 habitants. 50 000, c'est pas rien. L'ethnie prédominante ici est celle des Makua, qui sont virtuellement connus comme n'étant pas atteints par l'évangile et inaccessibles. Mais le Saint-Esprit nous a travaillé par sa puissance et allumé une faim énorme pour Dieu parmi les plus pauvres, comme nous l'avons vu faire durant toutes ces années. Notre deuxième église implantée était celle-ci à seulement 20 minutes de route du sud de Pemba. Dès lors, notre corps de croyants pionniers a grandi pour devenir des précurseurs pour le reste de nos églises dispersées dans toute la province, qui se compte maintenant au nombre de 1700. 1700. Église, hein. Ouais. On est dépassé, hein. L'église de Miez est devenue bien plus grande qu'une simple hutte en terre avec des rencontres le dimanche. C'est devenu le modeste prototype du développement de la transformation d'une communauté qui progresse chaque semaine. Nous apprenons ici ce qui est impossible, ce qui est possible en Dieu pour les pauvres de cette nation et comment le royaume peut impacter tous les aspects de la vie d'un village. Le Saint-Esprit s'est installé à Miez il y a déjà des années. Et son feu est flamboyant, plus lumineux que jamais. La sainte présence de Dieu est manifestée ici d'une multitude de manières magnifiques, diverses et variées, incluant des guérisons que les gens attendent maintenant avec impatience et reçoivent régulièrement. Sa présence entraîne une conviction profonde, des larmes d'affliction, de la repentance, une nostalgie, un soulagement, de la louange glorieuse, pleine et silencieuse, mais aussi la joie du Seigneur, la plus énergique, et de la danse devant le Seigneur de toute notre force. Sa présence dans la brousse se manifeste aussi par des maisons, des écoles, des fermes, de la nourriture, des puits d'eau, des familles, l'adoption de beaucoup d'enfants, des relations, des miracles, du plaisir. Un spectre complet de la vie de Dieu. Incroyable, ouais. Si vous entendez parler d'Heidi Baker qui vient dans la région, d'un homme, d'une femme dormie, allez-y. Allez-y. Bon, il ne s'agit pas de courir à droite, à gauche et pour se désengager de notre communauté, mais c'est bon quand même, c'est stimulant d'aller écouter des hommes, des femmes qui vivent réellement un réveil. Alors voilà, c'est stimulant. On pourrait rajouter le réveil des Cévennes. J'avais un livre, Le Théâtre des Cévennes. Si quelqu'un l'a, signalez-le moi, parce que je ne l'ai plus, j'ai dû le prêter à quelqu'un. Mais là aussi, j'ai commencé seulement tout juste à peine à écouter Le Réveil des Cévennes de Pierre de Mode. Mais en France, à un moment où Louis XIV était au pouvoir, Louis XIV n'avait pas encore révoqué l'édit de Nantes, ou qui disait que les protestants avaient la liberté, mais il avait pratiquement forcé tous les catholiques à convertir les gens au protestantisme. Bon, heureusement, c'est plus comme ça maintenant. Hein, donc ce que je dis là, c'est très particulier, il ne s'agit pas de rester avec cette vision d'il y a quelques centaines d'années. Hein. Ok, je dis ça parce que vous savez qu'on aime les catholiques. Hein. Mais à cette époque-là, voilà, il fallait que tous les protestants soient convertis de force au catholicisme. Et à un moment, il ne restait plus que quelques pasteurs. Il dit, vous avez 15 jours pour décamper. Et Louis XIV s'est dit, voilà, il n'y a plus de protestants en France. C'est à ce moment-là que Dieu a envoyé le réveil dans les Cévennes. Avec des trucs incroyables où des enfants qui ne savaient à peine parler prophétisaient. les gens avaient des songes sur les endroits où se cachaient les chrétiens pour les retrouver, enfin, ou quand il y avait des traîtres qui cherchaient à empoisonner, Dieu révélait dans un songe ou dans une image, il y a quelqu'un au milieu de nous qui a dans sa poche un poison pour eux. Et c'était vrai, enfin, des trucs incroyables. Le réveil est venu en France, dans les Cévennes. Il peut revenir. Voilà, tous ces récits sont stimulants. Oui. Ah, il a passé un peu, oui, c'est ça. On peut dire que c'est le réveil du Pays de Galles, je crois, qui est venu un peu. Voilà, aussi, oui. Ouais. 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 Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que ça a passé un peu le réveil du Pays de Galles et passé un peu dans la région, voilà. Oui. 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 Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. On est le fruit d'un réveil. Ouais. Voilà. Mmh. Pardon ? Oui, on peut dire ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, rêvez au réveil. Je vous encourage. Je suis le porte-parole de Robert, certainement, en disant ça aussi. Rêvons au réveil. D'accord ? Autre façon de me mettre en marche, on peut passer à la diapo suivante, en me positionnant résolument pour le réveil. Sans m'arrêter, je précise, sans m'arrêter, un, soit à cause de ce que je ne comprends pas, il se peut que dans les récits, il y a des choses qui... C'est pas dans la Bible, ça. Nous n'avons pas à limiter Dieu dans ce qu'il veut faire, hein. Il a peut-être donné tout ce qu'il faut au niveau doctrine, mais au niveau de ses actes, tout n'est pas écrit dans la Bible. D'accord ? Il peut y avoir des manifestations, Dieu est souverain. Qui sommes-nous pour le limiter ? Mais je peux être arrêté par des comportements charnels qui accompagnent le réveil. Bien sûr, il peut y en avoir. Bien sûr, il peut y avoir des comportements charnels. Est-ce que c'est pour autant que je dois me mettre contre le réveil ? Et on fait cette bêtise souvent. Oh, Toronto, non, c'est pas bon. Il y a des gens qui font... mais qui sommes-nous pour dire que le réveil de Toronto n'était pas réellement un mouvement de réveil de Dieu ? C'est pas parce que certains ont des manifestations charnelles. Et Finet le dit, il prévient tout de suite. Dans tous ses discours, il dit, ne vous arrêtez pas sur les mots qui peuvent accompagner des réveils spirituels. Les mots, c'est-à-dire des comportements charnels. Alors, on a à discerner, on a à juger. Ça, c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. D'accord ? Mais en aucun cas, je ne dois prendre le risque de devenir un opposant au réveil. Hein ? Comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, me positionner résolument pour le réveil. Aucun réveil n'est parfait. Il y a toujours la part de l'homme. Il peut y avoir des manifestations charnelles. Les abus, les autres erreurs ne sont pas une occasion de critiquer le réveil, de s'y opposer. Alors, diapo suivante, oui. J'ai souvent entendu Heidi Baker, si vous l'entendez. Vous pouvez l'entendre aussi hein, sur Internet. Vous tapez Heidi Baker, vous allez avoir des enseignements hein, de Dell. Elle dit, plus ça va, plus je comprends que l'évangile, c'est simple. Qu'il faut rester simple. Et c'est pour ça, en ne détournant pas de la simplicité de l'évangile, il y a un verset qui dit, ne vous détournez pas de la simplicité en Christ. Et elle dit dans ses écrits, là, elle dit, vous savez, c'est simple. Aime Dieu de tout ton cœur et aime la personne qui est en face de toi, quelle qu'elle soit. C'est simple. Aime Dieu de tout ton cœur, aime la personne qui est en face de toi. C'est frappant d'ailleurs quand Heidi Baker prie pour quelqu'un, souvent les gens... Elle prend vraiment la personne dans ses bras, puis elle reste plusieurs minutes comme ça. Juste pour prier pour la personne. Ouais. Et c'est sa manière de procéder. Aime Dieu et aime la personne, quelle qu'elle soit. Même si c'est ton ennemi, même si c'est quelqu'un qui t'a blessé, aime-la. Bien sûr, il y a parfois un processus de guérison, de pardon qui doit se faire, tout ça, bien sûr. Hein. Mais aime. Diapo suivante, et ce qui découle de cette simplicité, aimer Dieu de tout son cœur, c'est comme j'ai dit dans mon dernier message, c'est progresser dans la passion pour Jésus, évidemment. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est marcher de progrès en progrès. C'est toujours progresser dans cet amour. Bien sûr. Toujours progresser dans cet amour. De mieux en mieux. Aimer de mieux en mieux. Aimer de mieux en mieux Jésus et aimer les autres, ben c'est partager la passion, bien sûr. Partager la passion. Et on est heureux que, de nouveau, il y a un élan missionnaire dans l'Église, parce que si on n'a plus envie de partager cette passion, on va mourir. Hein. Si une Église n'est plus habitée par cette passion, c'est bon, c'est pour ça que c'est bon ces barbecues. Hein. Ah, c'est très bon. C'est très bon d'annoncer l'espérance. Si on ne cherche plus à partager à qui que ce soit notre amour, on s'éloigne du réveil. Donc c'est des choses toutes simples, hein, mais tellement importantes. Là, c'est vraiment... Voilà, donc encore une image de Heidi Baker. Dieu me montre en ce moment, Jean-Luc, si tu veux être constamment avec moi, saisis l'opportunité des micro-pauses que tu as dans la journée. Bon, c'est vrai que maintenant je suis en retraite, j'ai plus de temps. Hein. Bon. Mais même au travail, je pense qu'on a tous certainement des micro-pauses, des temps d'arrêt, des temps où personne ne nous parle, des temps où on conduit la voiture, des temps où... Le Saint-Esprit m'a dit, Jean-Luc, profite de toutes les micro-pauses dans la journée pour te connecter à Dieu. Tiens, tu as un temps... tranquille, tu fais tes courses au magasin, tiens. Ben, on peut adresser une prière à Dieu, Seigneur, bénis les caissières, bénis ce magasin. Et on a rencontré quelqu'un auparavant à qui on a parlé dans la rue, Seigneur, bénis cette personne que j'ai rencontrée. On a un souci qui nous vient, Seigneur, je t'apporte mon souci. On adresse ces prières éclairs dans tous ces micro-pauses que le Seigneur nous donne. Est-ce qu'on pense que le réveil, c'est faire 3-4 heures de prière par jour? Mais Heidi Baker, souvent, elle se dit, et parfois on est comme ça, on dit, voilà, Seigneur, je suis là, je prie pendant 1 heure, 2 heures. Puis après, c'est comme si on disait, voilà, Seigneur, t'es là, je m'en vais, à demain. Hein? À demain, je reviens te voir demain, comme si, en sortant de ce moment, on détourne son cœur. Et en fait, on doit chercher à se connecter à Dieu. Mais quand on n'est pas connecté directement, qu'on a des choses à faire, qu'on garde son cœur toujours tourné vers lui. Et c'est pour ça que ces chants, tourner les yeux vers le Seigneur, c'était pour nous conduire à ça, hein, d'accord ? Garder son cœur toujours tourné vers le Seigneur, toute la journée. Toute la journée, mais profiter des micro-pauses, ça nous raccroche, ça nous raccroche. On peut lancer une prière éclair, on peut lancer un au secours, une action de grâce, une intercession. Et une dernière chose que le Saint-Esprit m'a dite juste à la fin, en résistant à l'intimidation, parce que si tu redésires le réveil, si tu le désires, on devient dangereux pour le diable, c'est sûr. Hein? Mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Pierre de Mode, il dit qu'il y a des discours parfois affreux. Une fois, un ancien lui a donné ce conseil. Il a dit, tu sais, prie pas trop, parce que plus tu pries, plus tu vas être attaqué par le diable. Qu'est-ce qu'on laisse entendre de cette manière, hein? Que le diable est plus fort. Ah non, c'est pas juste. C'est pas juste. On est plus en sécurité en étant dans une situation où on est alerte que au contraire, une situation où on est endormi et on est prêt à se laisser enrober quoi par lui. Hein. Donc non, n'ayons pas peur, ne nous laissons pas intimider, parce que c'est sûr que l'ennemi, si on est amoureux du réveil, va vouloir nous intimider, soit par des circonstances difficiles, fatigantes, ouais, soit par des dérangements, par des paroles, que quelqu'un va, des paroles méprisantes peut-être, comme David, qui a encaissé cette parole de Saül, il a dit « tu n'es qu'un enfant, tu vois, combat de Goliath, mais tu n'es qu'un enfant hein. ». D'accord ? Donc, résistez à l'intimidation. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. J'en viens à la conclusion. Conclusion. Il y a Ésaïe qui nous dit « Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples. » Ça laisse entendre que le monde est ébranlé. Hein ? Et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on va voir que le monde est ébranlé. Alors face au monde qui est ébranlé, on peut avoir trois réactions. La première, je peux être dans la crainte. Et si je suis dans la crainte, je ne serai pas d'une grande utilité. Je serai paralysé. Hein ? Paralysé par la peur paralyse. Vous êtes d'accord, hein ? La peur paralyse. Je peux être dans la crainte. Deuxième réaction, je peux être dans le déni. Non, tout va pas si mal. Tout va pas si mal. Alors c'est vrai qu'il faut pas être pessimiste. Mon propos se veut optimiste. C'est Dieu qui va gagner. Mais on peut pas nier que le monde est ébranlé. Si je nie cet ébranlement, que je me prépare pas, je risque d'être profondément moi-même ébranlé. Et d'être dans une grande désillusion. Parce qu'on n'a pas tout vu. Hein. Et si ce qui se passe en Irak vient ici, et si les attentats suicides viennent ici, dur. Hein. Bon. Et troisième réaction, je peux être de ceux qui répondent à l'appel de Dieu de se réveiller. Et de ne pas laisser mon amour se refroidir comme... Il est laissé entendre dans l'évangile que parce que l'iniquité va s'accroître, la charité du plus grand nombre se refroidira. Attention. Non, au contraire. Au contraire. Pour moi, c'est l'opportunité de crier à Dieu qui répande son feu en moi. Qui répande son feu. Alors, diapo suivante, oui. Voilà le verset complet là, d'Ésaïe 60. Je l'aime beaucoup, je le cite souvent. Hein. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi qui veux te réveiller. » Sous-entendu, sur toi qui veux te réveiller. Et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Donc ça parle d'un monde ébranlé là, mais ça parle aussi d'un réveil. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset. Et dernière diapo. On voit un tas de gens qui regardent vers le ciel. Alors probablement ils regardent un feu d'artifice ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pris cette image pour illustrer simplement que si je me réveille, je vais amener beaucoup de gens à lever les yeux vers le ciel. À tourner les yeux vers le ciel. Et à leur tour, ils vont trouver l'espérance. Si je ne me réveille pas, voyez, voilà, il me faut me réveiller pour entraîner d'autres, comme Heidi Baker entraînait tous ses enfants-là. Tous ses enfants à tourner les yeux vers le ciel. Il paraît qu'il y a un livre qui parle de visions d'enfants. De ces enfants que Heidi Baker nourrit et prend soin, hein. Des visions sur le ciel, magnifique, il paraît qu'il y a des visions magnifiques. Alors voilà, si vous avez envie de refuser d'être dans la crainte, de refuser d'être dans le nid, de vous réveiller, alors je vous invite à vous lever, on va terminer dans la prière, d'accord ? Puisqu'il est dit « lève-toi ». Alors, c'est bien, Huguette, c'est bien. Voilà, on se lève et puis ce que je propose, c'est que simplement on dise deux, trois mots qui traduisent mon désir de réveil. Comme vous le sentez. Comme vous le sentez. Simplement deux, trois mots ou un peu plus si vous voulez pour dire votre réponse à l'appel de Dieu de me réveiller. Voilà. Je vais commencer, puis ensuite vous pouvez... Voilà, Seigneur, je me lève, je sens ma misère et je sais ma misère. Hein? Je sais ma misère, je sais que j'ai besoin de me réveiller moi-même. Et je sais que tous les jours, même si je suis réveillé, que je suis sorti de mon sommeil, j'ai besoin de sortir aussi d'un sommeil spirituel. J'ai besoin d'être éveillé à toi, à la réalité de ta présence. Alors je sais ma misère, mais mes yeux sont sur toi. Tu sais, mon désir profond d'un réveil est de voir la manifestation de ton royaume. Alors Seigneur, je me lève pour dire oui. Oui, je veux marcher vers le réveil. Je veux écouter tes instructions. Je veux pas qu'il y ait la crainte qui me retienne, la peur, tout autre obstacle. Ouais, je veux, je le désire ardemment, parce que je sais que c'est nécessaire pour ton retour, pour toucher ma ville, ma région. Amen. Et une dernière prière que j'aimerais faire, c'est par rapport à tout sentiment de honte, d'être devant les autres quelqu'un qui aime Dieu, qui cherche Dieu. Finé a été réveillé comme ça au début, son réveil a commencé comme ça. Il est allé prier dans un coin dans la nature, tout seul, et puis crier à Dieu. Puis à un moment, il entend une branche craquer. Il était convaincu que quelqu'un était en train de le surprendre. Puis il était gêné, Et ensuite, il était gêné de sa réaction, d'être inquiet de ce que quelqu'un s'apercevait qu'il cherchait Dieu. Et je vraiment priais pour que Dieu nous libère de tout sentiment de honte, de la honte de parler de Dieu, de chercher Dieu. Pour les autres, qu'on soit libéré de ce que les autres en fait pensent de moi. Hein? Et qu'on n'ait pas honte d'être quelqu'un qui cherche Dieu, qui aime Dieu, qui prie Dieu. D'accord ? Seigneur, je prie de libérer de toute honte maintenant. Vraiment, ces racines de honte en nous, de ce que nous sommes en toi, par rapport à des gens qui n'ont pas l'habitude de toi, des gens qui n'ont pas l'habitude de parler de Dieu. Mais Seigneur, que nous n'ayons pas honte, que nous ne perdions pas la sagesse, certes, mais Seigneur, merci. Libère-nous de toute honte maintenant, par ton Saint-Esprit. Dégage-nous de ces racines de honte. Et que à l'approche de cette nouvelle année scolaire, nous puissions être des hommes et des femmes libres pour parler de toi, en toute sagesse, avec passion, avec discernement, mais sans honte. Amen.